Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La vaccination contre le Covid-19 sera gratuite et commencera dès le mois de janvier dans les EHPAD pour s'étendre progressivement au reste des Français sur la base du volontariat. Mais pour lutter contre la peur du vaccin et les théories complotistes, le gouvernement a promis d'être totalement transparent. Illustration immédiate hier soir, le professeur Alain Fischer, nommé Monsieur Vaccin, reconnaît qu'il faudra davantage d'études scientifiques et de recul sur les vaccins, au-delà des communiqués de presse des labos pharmaceutiques.
Et la pandémie, Catherine, qui n'en finit pas de bouleverser le champ culturel à Warner, va sortir tous ses films prévus l'an prochain simultanément en salle et sur sa plateforme de vidéo à la demande HBO Max.
Un plan provisoire, assure les studios américains, mais difficile de revenir en arrière, craignent plusieurs médias aux États-Unis.
Et puis à la une encore, le rapport de l'inspection générale de l'éducation avant l'assassinat de Samuel Paty.
L'institution jugée réactive mais faible sur la surveillance des réseaux sociaux. La loi sur la sécurité globale est incompatible avec le droit international et les droits de l'homme. La critique ne vient pas des rangs de l'opposition en France, mais de plusieurs experts de l'ONU, vous l'entendrez.
Et puis dans une dizaine de minutes, ça sera la radiographie du coronavirus avec, bien entendu, Nicolas Martin.
Dans un pays où la défiance à l'égard des vaccins est plus forte que chez nos voisins, en Europe, des études montrent que la moitié des Français refuseraient de se faire vacciner contre le Covid-19. Jean Castex a vanté hier soir un acte d'altruisme. Se faire vacciner contre le Covid pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres de la maladie. La vaccination sera donc gratuite, non obligatoire. Et Olivier Véran, le ministre de la Santé, a apporté de nombreux détails sur la campagne de vaccination qui pourra commencer dès janvier. 100 millions de doses ont été précommandées par la France, Tara Schlegel.
La peur du vaccin n'arrêtera pas le virus, a prévenu Olivier Véran, qui insiste sur le formidable espoir de cette prouesse scientifique. Mais le vaccin, il le sait aussi, si formidable soit-il, doit d'abord être accepté par la population. Et le gouvernement s'y est engagé. La transparence sera totale. Je ferai tout pour que vous disposiez du même niveau de connaissances que nous, assure en substance le ministre de la Santé.
Pasteur lui-même nous disait « Ayez le culte de l'esprit critique ». Je crois qu'il faut distinguer l'esprit critique qui avance de l'esprit suspicieux qui peut trouver toutes les mauvaises raisons pour ne pas avancer et qui en définitive fait qu'on ne sait plus où on va.
Il détaille parallèlement ce que l'on sait déjà de la future stratégie. À condition que les agences européennes, françaises autorisent les vaccins, la campagne commencera dès janvier. Par les EHPAD, 1 million de personnes, entre résidents et soignants fragiles, dans ces quelques 10 000 établissements. Le défi logistique sera énorme, transporter les doses à moins 80 degrés et les administrer en 5 jours. Après décongélation. Ensuite, de février à mars, on vaccinera 14 millions de Français, des plus âgés aux plus vulnérables, avant d'entamer la vaccination de masse, terme choisi par Olivier Véran. Le gouvernement s'appuiera sur le médecin traitant pour administrer toutes les doses, mais aucune précision là-dessus pour l'instant. On sait surtout que la stratégie s'appuie sur 3 principes. Le libre choix, le vaccin ne sera obligatoire pour personne, la gratuité pour tous, 1,5 milliard d'euros sont budgétés et la sûreté, ce qui nous renvoie à la confiance, à la transparence. On sait qu'environ la moitié des Français n'ont pas vraiment l'intention de se laisser vacciner, du moins pour l'instant.
Et dans ce contexte de réticence vis-à-vis des vaccins en France, il fallait trouver le général capable de mener cette campagne de vaccination, capable d'inspirer la confiance. La nomination d'Alain Fischer dans le rôle du Monsieur Vaccin semble le casting idéal. Portrait de ce professeur d'immunologie et de pédiatrie très respecté dans la profession, signé Véronique Julien.
À 71 ans, Alain Fischer jouit d'une solide réputation et d'un CV long comme le bras. Grand prix de la recherche médicale de l'INSERM en 2008, il est professeur au Collège de France, membre de l'Académie de médecine, de l'Académie des sciences, ancien membre du Comité national d'éthique et surtout ancien chef de l'unité immunologie et hématologie pédiatrique à l'hôpital Necker. À ce poste, il a guéri dans les années 2000 les premiers bébés bulles, ces enfants qui naissaient sans défense immunitaire. En plus de 40 ans de carrière, Alain Fischer a signé des centaines de publications scientifiques et ses travaux sont qualifié de considérable en matière de thérapie génique. Sa démarche prudente et rationnelle devrait rassurer. Hier soir, en conférence de presse, il s'est montré pédagogue, mais aussi honnête sur l'état actuel des connaissances.
Pour l'instant, nous ne disposons que de communiqués de presse de la part des industriels. Nous attendons avec impatience des publications scientifiques. Deuxièmement, par définition, le recul à ce jour sur l'évaluation de la sécurité et l'efficacité de ces vaccins ne dépasse pas 2 à 3 mois. Les données ne sont pas encore complètes non plus pour savoir si le vaccin protège contre la transmission.
Régulièrement consulté sur les vaccins. Alain Fischer était déjà membre du comité scientifique sur les vaccins Covid-19. Il présidera donc le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale qui sera chargé d'épauler le gouvernement dans ses choix et qui comprendra des experts scientifiques, des professionnels de santé, des représentants des collectivités locales mais aussi des associations de patients et des citoyens.
Le Royaume-Uni lui a reçu ses premières doses de vaccin contre le Covid-19. Il s'agira dès la semaine prochaine du premier pays au monde à lancer une campagne générale de vaccination sur 20 millions de personnes avec le produit élaboré par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech. Les doses ont été fabriquées en Belgique. Elles ont été acheminées via le tunnel sous la Manche, explique la BBC ce matin. Les Britanniques ont été imprudents, avait déclaré le docteur Anthony Fauci face à ce vaccin. Le monsieur Covid aux États-Unis, c'est de puis excusé de ses propos. Anthony Fauci, décrié par Donald Trump, est désormais chargé par Joe Biden de diriger sa future équipe Covid. Celui qui entrera à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain veut promouvoir les masques pendant 100 jours au moins aux États-Unis, dans les bâtiments fédéraux et dans les transports. La pandémie qui bouleverse les sorties cinéma, comme pour son Wonder Woman 1984, le studio Warner Bros. A annoncé que toutes ses autres grandes productions pour l'an prochain allaient sortir simultanément en salle et sur la plateforme de vidéo à la demande HBO Max, au grand dam des exploitants qui sont toujours fermés. Peut-être le signe d'un changement durable pour Hollywood, Loïc Piala.
Cet été, Warner Bros. A été le seul studio à sortir une grosse production en salle, mais Tenet a déçu au box-office, entre cinéma fermé et spectateurs méfiants. Alors, vaccin ou pas, le studio n'a pas voulu reprendre de risques et choisit une sortie hybride pour ses 17 films programmés en 2021, dont des blockbusters très attendus comme Dune ou Matrix 4. Pour AMC, la plus grosse chaîne de multiplex du pays, Warner cherche surtout à mettre en avant sa plateforme HBO Max, qui avec 8 millions d'abonnés pointe très loin derrière Disney+ ou Netflix. Et tant pis si les salles en sont les victimes. Car le coronavirus a inversé le rapport de force entre studios et exploitants privés de films. Universal a par exemple convaincu deux grandes chaînes de cinéma de réduire significativement leurs fenêtres d'exclusivité. Les responsables de Warner assurent qu'il ne s'agit que d'un plan provisoire lié à un contexte sans précédent. Mais les médias américains parlent de séisme pour l'industrie. Difficile de revenir en arrière après une telle décision, disent-ils.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu, la FSU, premier syndicat d'enseignants, et la CGT Éducation claquent la porte du Grenelle de l'éducation.
Un rendez-vous organisé par Jean-Michel Blanquer. Benoît Teste, le secrétaire général de la FSU, dénonce une opération de communication sur des visions peu ouvertes au dialogue.
Le Grenelle, dans sa partie expertise sur les métiers de l'éducation, non seulement on considère qu'il est en surplomb et qu'il ne débat pas des véritables besoins de l'éducation, mais en plus on considère qu'il peut être très dangereux. On est en train d'essayer de redéfinir plein de choses sur l'organisation du système. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à changer, mais certainement pas en mettant sur le devant de la scène les dernières modes managériales ou les dernières idées reçues sur la manière dont on doit enseigner. Mais les ateliers qui se sont déroulés sur cette thématique, ils rentrent uniquement par la question comment, en gros, créer des hiérarchies intermédiaires, comment contrôler mieux le travail des enseignants. Et donc, les biais sont beaucoup trop forts dans le Grenelle pour qu'on puisse continuer à y parler sereinement et à y discuter sereinement de ce qui serait nécessaire pour l'éducation.
Benoît Teste, le secrétaire général de la FSU, joint par Hakim Kasmi. La FSU qui appelle également à une journée de grève dans l'éducation le 26 janvier prochain. La protection des enseignants doit être accentuée. C'est ce que déclare ce matin Jean-Michel Blanquer dans un entretien au Figaro après la publication d'un rapport de l'inspection générale sur l'assassinat de Samuel Paty. Rapport qui conclut donc sur les jours qui ont précédé l'assassinat de ce professeur d'histoire-géographie, les établissements, la hiérarchie a pu être réactive face aux menaces qui pesaient contre Samuel Paty. Ce rapport souligne en revanche un défaut de surveillance des réseaux sociaux. On y revient dans le journal de 7h30. Au procès des attentats de janvier 2015, l'audience a repris hier après une nouvelle interruption le matin. Le principal accusé, Ali Rizapola, ayant été conduit aux urgences puis jugé en état de comparaître. Le président l'a d'ailleurs sommé de se tenir tranquille sous peine d'expulsion. Les avocats de la partie civile continuent, eux, à se succéder à la barre, notamment ceux des victimes de l'hypercachère Florence Turme.
Ce procès est celui de l'antisémitisme qui a tué sur notre sol. Élie Korchia détache les mots face à la cour. Inéluctable répétition de l'horreur, poursuit Laurence Sechmann. C'est une onde constante, permanente. Le ventre de la bête immonde a mué, mais c'est la même chose. Elle le crie presque, mort aux juifs. Pourquoi ? La voix de l'avocate se fait plus douce pour interroger les racines de cette haine qui, dit-elle, ne s'explique pas, mais qui s'insinue, se donne en héritage. Elle défend les familles de Yoav Atab, ce héros sans bouclier qui a tenté de prendre l'arme du terroriste, et de Michel Saada. Leur quotidien reste une inconsolable douleur. Et vous êtes à l'origine de cette douleur, lance-t-elle aux accusés. Ils nient tous leur connaissance précise des projets terroristes d'Amedi Coulibaly. Elle n'est pas nécessaire pour retenir l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes, soutient l'avocate. En parfaite association de malfaiteurs, c'est un manège qui tourne, des poupées russes qui se dévoilent. Avant elle, Élie Korchia avait désigné Ali Reza Polat comme le rouage essentiel de la machination terroriste orchestrée par le tueur de l'hypercacher. Toutes les parties civiles insistent sur le sens du verdict à venir. Je fais le vœu, conclut Laurence Sechmann, qu'il soit le bâtisseur d'un chemin supposé impossible pour éradiquer cet islam radical, que vous rétablissiez les principes de notre démocratie où chaque juif a sa place, que par ce verdict soit inscrit de nouveau au milieu de nos esprits, liberté, égalité, fraternité.
La loi sur la sécurité globale dans le collimateur de l'ONU, en tout cas de 5 de ses experts sur les droits de l'homme. Ils demandent à la France de revoir sa copie devant un texte jugé incompatible avec le droit international, pas seulement sur l'article 24 si controversé, lui qui punit la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. Les précisions à Genève de Jérémy Lanche.
Les 5 experts de l'ONU estiment que le démantèlement violent d'un camp de migrants à Paris et l'agression d'un producteur de rap par des policiers sont autant de rappels que les images vidéo des abus policiers jouent un rôle essentiel dans la surveillance des institutions publiques. La rapporteure spéciale sur les exécutions extrajudiciaires Agnès Callamard appelle l'exécutif, mais aussi le Parlement, à faire son examen de conscience.
Il en revient à tout le monde de s'engager dans un processus de réécriture de la part, bien sûr, des membres du gouvernement, mais aussi des membres du Parlement, du fait qu'ils ont adopté quelque chose qui viole des principes fondamentaux auxquels la France a souscrit.
Déjà l'an passé, des experts de l'ONU avaient sévèrement critiqué la gestion par la France des manifestations des Gilets jaunes, une tendance de fond qui inquiète Agnès Callamard.
La France s'est fait épingler tout comme d'autres pays occidentaux. Ça veut dire que ces États-là, au nom du contre-terrorisme, de la sécurité, sont prêts à prendre des mesures qui sont liberticides, donc qui constituent des dangers pour nos libertés, des libertés fondamentales qui sont au cœur de l'identité française et de la République française.
Les experts préviennent, la simple réécriture du controversé article 24 ne résoudra pas les défauts d'une loi dont plusieurs dispositions, disent-ils, portent atteinte aux droits de l'homme.
Jérémy Lanche à Genève pour France Culture. Le temps de ce vendredi 4 décembre, assez variable et pluvieux, notamment dans la moitié est du pays. Au meilleur de la journée, il fera entre 5 et 9 degrés dans le nord de l'Hexagone, comptez de 8 à 15 au sud, Guillaume Hernet.
Merci Catherine Dutu. Dans quelques minutes, vous entendrez le portrait d'un chef d'orchestre, Jean-Claude Cassatsu, mais tout de suite, c'est la radiographie du coronavirus.